Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Étienne Gis, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître aux éditions Odile Jacob un nouveau livre, La Petite Histoire des Lettres. Vous avez déjà publié aux éditions Odile Jacob La Petite Histoire des Flocons de Neige, La Petite Histoire du Ballon de Foot, La Petite Histoire des Nombres, et qui ont été de très grands succès. Vous êtes mathématicien, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, directeur de recherche émérite au CNRS ENS de Lyon. Vous avez reçu en 2022 la médaille de la médiation scientifique du CNRS et vos domaines particuliers de recherche sont la géométrie et les systèmes dynamiques. Vous êtes aussi l'auteur de films de vulgarisation de mathématiques. Alors, il y a le film de mathématiques en images de synthèse qui a reçu le prix d'Alembert en 2010, ainsi que Le Chaos, c'est une aventure mathématique. C'est très agréable de vous lire. Il y a beaucoup, évidemment, de savoir de science, mais fait avec tant d'élégance et que le lecteur en retire toujours beaucoup.
Voilà. C'est très gentil.
c'est sincère. Alors, donc, ce livre, La Petite Histoire des Lettres, est-ce que vous pouvez nous présenter ce titre et puis nous irons plus loin dans les caractères, les glyphes, etc. Tous ces mots. Et puis aussi les biographies très intéressantes, notamment celle de Johann Gutenberg qui a inventé, voilà. Et puis j'ai vu. Ah, oui, rue des Arbocastes.
Exactement.
Et tout à fait. Ce qui m'a aussi intéressé, c'est qu'il a travaillé beaucoup avec Peter Schoeffer. Et est-ce que vous savez ce que ça veut dire Schoeffer en hébreu ?
Non, dites-le-moi.
Alors c'est le scribe, celui qui fait de la calligraphie hébraïque, vous savez, voilà. Et ça m'a beaucoup intriguée parce que Schoeffer, c'est ça. Exactement en hébreu, c'est Sofer, mais comme le signe pour dire le che et le s sont les mêmes, sauf que pour le s, le point diacritique est au-dessus à gauche du signe, du caractère, et que lorsque c'est « che », c'est à droite. Et alors donc, je me suis dit, ce monsieur, Schoeffer, et qui travaille, qui a imprimé la Bible, ça m'a semblé être un personnage brillant, mais vous n'avez pas fait de biographie. Est-ce que vous ne savez pas s'il était juif ?
Non. Écoutez, je n'en sais rien. Je ne sais absolument rien.
Voilà.
Peut-être que je peux répondre à votre question. Donc, effectivement, comme je suis mathématicien, j'ai écrit quelques livres de mathématiques dont vous n'avez pas parlé, tout simplement parce qu'ils sont très techniques et destinés à des publics spécialisés. Mm-hmm. Mais depuis quelque temps, vous avez vu que je me suis mis à écrire des choses sur des objets plus courants, comme le ballon de foot, le flocon de neige. Et ce livre sur les lettres, c'est sans aucun doute le moins mathématique de tout ce que j'ai jamais écrit dans ma vie. Et la motivation initiale est tout simplement que mon père était imprimeur. Mon père était un imprimeur, mais un ouvrier imprimeur. Et donc j'ai toujours eu, et j'ai encore, une espèce de respect infini pour l'artisan, l'ouvrier, celui qui manipule les caractères d'imprimerie. C'est quelque chose qui est important pour moi. Donc ce livre, je l'ai fait en fait en hommage à mes parents. Mmh. Voilà, tout simplement. Mmh.
Alors,
mais très peu mathématiques, en fait.
Mais évidemment, nous voyons de la géométrie lorsque nous analysons comment sont faites les lettres. Et par exemple, le F et le L donnent de E.
Exactement.
Voilà,
exactement. C'est quelque chose que je trouvais intéressant de voir que à la Renaissance, les grands maîtres de la Renaissance, qui sont à la fois des graveurs, des dessinateurs, des mathématiciens, des géomètres, mélangent un peu tout ça, vont voir un peu chez dans la Rome antique, essayent de trouver ce qui est beau, cherchent les bonnes proportions. Il y a ce mathématicien qui s'appelle Lucas, qui écrit un livre que je trouve vraiment magnifique, qui s'appelle « La divine proportion », qui essaie de réfléchir un peu à, justement, comment, quelles sont les proportions qui sont adaptées à la beauté, qui nous approche. À l'époque, bien entendu, ces gens étaient éminemment religieux, donc c'est quelles sont les proportions qui nous approchent le plus de Dieu. J'ai trouvé que c'était une période intéressante, donc il y a Lucas, mais il y a aussi d'autres, il y a aussi Dürer, enfin il y a beaucoup de grands artistes. Moi, ce sont plus des artistes que des artisans de cette époque. Donc j'ai regardé un peu comment ils faisaient, comment ils dessinaient, quels étaient les outils qu'ils employaient. Ça, c'est le début. Puis après, j'ai regardé comment cette histoire s'est complexifiée, et comment elle s'est enrichie par l'arrivée d'autres dessinateurs, d'autres mathématiciens. Voilà, c'est une belle histoire qui m'a plu.
Mais elle est tout à fait passionnante. Alors, avec une règle et un compas, on arrive à créer donc ces lettres, ces formes de lettres, qui avec aussi un cercle et un rectangle.
Oui, oui. Et en fait, c'est intéressant parce que vous savez peut-être pas, parce que dans la géométrie classique des Grecs de l'Antiquité, la règle et le compas, ce sont les outils majeurs avec lesquels on dessine, on fabrique des figures et on démontre des théorèmes. Et peut-être que vous avez appris vous-même à l'école, peut-être au collège, à faire quelques constructions à la règle et au compas, comment on trace la médiatrice d'un segment, comment on trace les bisectrices dans un triangle. Et là, on apprend avec un compas une règle. Et pendant très longtemps, les constructions à la règle au compas étaient considérées comme étant le Graal. C'était vraiment les belles constructions se faisaient à la règle au compas. Et puis on s'est rendu compte peu à peu que ça ne suffisait pas toujours. Et il y a un truc que je trouve tout à fait intéressant, c'est Dürer qui publie un alphabet. Donc il explique comment il faut dessiner le S par exemple. Et puis le S, il y a des moments qu'il y a des endroits qui sont courbes, qu'il dessine bien sûr avec un compas, et des endroits qui sont rectilignes, qu'il dessine bien sûr avec une règle, et il y a des jonctions entre les deux, et là, Dürer écrit une très belle phrase, il écrit, vous savez, des fois, il faut aussi les connecter à main levée. Donc ça, c'est la position de l'artiste qui vient ajouter sa touche personnelle pour connecter en quelque sorte les géométries pures et abstraites.
Et il disait aussi que si les scribes avaient tant de mal à écrire leurs lettres, c'est-à-dire vraiment ils bossaient là-dessus pour arriver à produire des lettres véritables, eh bien c'est parce qu'ils ignoraient la géométrie, que la géométrie c'était le secret des lettres bien proportionnées, le nombre d'or que les artistes connaissent pour leurs tableaux. Donc il y a des formules, des révélations mathématiques qui nous donnent la clé de certaines formes que nous croyons uniquement créatives et artistiques.
Tout à fait. Ça, c'est certainement le plus net au niveau de la Renaissance. Et puis après, les choses ont un peu évolué. Elles sont devenues même un peu plus mathématiques. Moi, j'aime bien la période que je décris dans les chapitres où on comprend que le dessin, la création de l'être ont un aspect extrêmement politique, en fait, puisque l'exemple que je préfère, c'est celui de Louis XIV, qui demande à Colbert de demander à l'Académie des sciences de dessiner une police de caractère qui puisse être à son image, à l'image de la gloire de Louis XIV. Et toute une équipe d'académiciens se met au travail et produit cet alphabet qui s'appelle le Romain du Roi, qui est le Romain de Louis XIV. Et d'une certaine manière, on sent, quand on voit cet alphabet, on sent qu'il y a toute une... On sent Louis XIV, pour présenter, je crois que j'ai écrit quelque part, que c'est à l'image des jardins de Versailles, les choses sont parfaitement symétriques, parfaitement droites. Il y a une espèce de rigueur qui est celle, je pense, du grand siècle. Tout ça, c'est je trouve une belle histoire de voir que la politique peut avoir un lien sur la typographie et réciproquement.
Mais oui, vous dites aussi que nos lettres sont un héritage d'un monde mécanique, d'une langue, d'une histoire, d'une culture et d'habitudes graphiques. Et c'est le domaine habitudes graphiques qui m'a vraiment interpellée. Ce sont des habitudes, c'est-à-dire des adaptations.
Exactement. Exactement, c'est comme tout dans l'histoire. En même temps, on évolue et puis parfois, il y a des innovations. Tout ça est... Écoutez, j'ai trouvé tout ça. C'est, encore une fois, je suis mathématicien, hein, je ne suis pas typographe, mais en travaillant dans l'histoire de des lettres, j'ai découvert un mélange d'histoire, de géométrie, de politique, de technique. Tout ça est passionnant, et en particulier, vers la fin, je parle de la manière dont l'informatique s'est emparée de cette question de dessin, de lettres et de typographie. Mm-hmm. Puisque au départ, moi je me souviens très bien, j'ai l'âge suffisant pour m'en souvenir, des premières imprimantes qui faisaient un bruit abominable, imprimaient des lettres très très moches. C'était des petits points côte à côte, c'était abominable. Et alors un grand mathématicien qui s'appelle Donald Knuth a eu l'idée de dire, bon maintenant nous sommes, c'était en 1980-85, il a dit, bon maintenant que l'informatique est là pour nous aider, on va utiliser l'informatique pour dessiner les lettres avec intelligence. Et il a commencé par passer beaucoup de temps, précisément, à étudier les anciens, à étudier la façon dont les grands maîtres de la Renaissance dessinaient. Et il a écrit pas mal d'articles tout à fait passionnants sur le rôle des mathématiques et de la géométrie dans le dessin des lettres. Et il a commencé à faire des alphabets, que je crois on peut dire parfaits, c'est-à-dire en particulier... ce problème que je citais tout à l'heure de lien entre un morceau rectiligne et un morceau circulaire, il l'a réglé en utilisant ce que les mathématiciens appellent aujourd'hui une courbe de Bézier qui permet d'interpoler, de connecter des droites et des cercles. C'est absolument magnifique. Et aujourd'hui, la typographie est un autre monde beaucoup plus vaste que ce qu'on faisait dans l'ancien temps. Vous comprenez, dans le temps, un imprimeur, il avait dans son atelier, il avait, je sais pas, peut-être 5, 6, 10 polices de caractères, tout au plus. Aujourd'hui, l'imprimeur a à sa disposition, le typographe a à sa disposition, plutôt que des polices de caractères, il a des programmes qui permettent de dessiner des polices de caractères à l'infini. Et moi, j'aime bien, par exemple, un truc qui a été fait justement par ce Donald Knuth pour montrer la puissance de ces méthodes informatiques. Il a imprimé un psaume de la Bible, vous savez, le Seigneur est mon berger, etc. Mm-hmm,
oui.
Et il a imprimé, je trouve que c'est très très beau, et ça prouve la puissance de l'informatique. Il a imprimé d'une manière telle que, quand on lit le texte, la police de caractère change continuellement de lettre à lettre. Oh. Au début, tout en haut à gauche, on voit des lettres très classiques, avec des empattements, des pleins, des déliés. Et quand on arrive tout en bas, sans qu'on se soit rendu compte, progressivement, les empattements ont disparu, les pleins et déliés ont disparu, et on arrive à une police de caractère tout à fait moderne, tout à fait, vous savez, des polices de caractère... qui n'ont aucun caractère, si je peux me permettre, qu'on voit dans les polices Arial ou
quoi. Oui, Garamond, etc.
Non, Garamond est une belle police.
Est une très belle française, d'ailleurs.
Voilà, tout à fait. Oui,
absolument belle.
Donc voilà, donc grâce à Donald Knuth et d'autres, on a compris que l'informatique nous offre une diversité absolument inimaginable pour nos artistes de la Renaissance.
Alors, à quoi est due cette adaptation d'une lettre à l'autre, comme si elle était, comme si l'écriture était infusée d'intelligence, de sentiments, de sensibilité. D'une lettre à l'autre, il y a une autre proposition, une autre, etc. Comment est-ce que vous pouvez expliquer rationnellement cette évolution d'une lettre à l'autre jusqu'à la fin du verset pour atterrir sur la police qui semble la plus adéquate avec notre sens de l'esthétique, finalement?
Mais moi, ce qui me semble intéressant dans tout ça, c'est que c'est qu'il n'y a pas une police qui est intéressante. Chaque usage, si on écrit de la poésie, si on écrit un verset de la Bible, si on écrit un texte de mathématiques, si on écrit un faire-part de naissance ou je ne sais quoi, chaque police reflète un état d'esprit, une façon d'être, une façon de se présenter soi-même. Et on a beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui, on peut, grâce à ces polices de caractère, insuffler un sentiment au lecteur. Mmh. Vous savez, les lettres, pour simplifier, il y a des lettres qu'on appelle avec empattement, c'est-à-dire que en bas de la lettre, c'est comme si elles étaient posées sur un petit socle. Hein. Oui. Et quand on regarde bien, on comprend que les empattements, d'une certaine manière, ralentissent la lecture. Beaucoup d'essais ont été faits pour dire qu'on lit plus lentement si les lettres sont munies de sérifs ou d'empattements, comme on dit. On lit plus lentement, mais on lit mieux. Et si on veut lire vite, par exemple, un panneau sur l'autoroute, pour vous donner une direction ou un changement de route, alors là, il faut qu'on lise vite et sans forcément s'y attarder. Alors là, il vous faut des caractères différents, dont la géométrie est beaucoup plus simple, qui n'a pas besoin, ce qu'on appelle plutôt de type bâton, vous savez, des choses très très bêtes, bêtes. Hein, donc, et donc, chaque police de caractère vient avec une façon de sentir les choses. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, je ne l'ai pas mis dans mon livre, parce que c'était juste au moment où il paraissait. En décembre dernier, le vice-président américain J.D. Vance, dont on parle beaucoup et beaucoup trop, a publié un décret, ou je ne sais pas si c'est vraiment un décret, interdisant à l'administration américaine de décrire leur texte administratif en caractère colibri, je crois, parce qu'il était trop woke.
Ah, d'accord.
Et vous voyez donc qu'il y a
une portée politique, finalement.
Il y a beaucoup de caractères qui ont une portée politique. Par exemple, Trump utilise une police de caractère qui est la sienne, il s'appelle Gotham. Et si on y pense, j'ai parlé tout à l'heure de Louis XIV et de la police de caractère romain du roi, mais on peut aussi parler de, même en France, dans notre pays, en 2020, je trouve ça assez étonnant, en plein Covid, une commande de police de caractère a été faite par l'Élysée et qui a produit une police qui s'appelle Marianne. Oui. Et Marianne est en principe la police obligatoire pour tous les documents administratifs en France.
C'est un code.
C'est un code. Et je pense que vous croyez que vous ne la connaissez pas. Mais vous la connaissez parce que vous l'avez déjà vue mille fois. Et de manière subconsciente, elle vous envoie un petit signal. Je suis un texte administratif.
Voilà. Alors, comment lit-on d'abord, où sont les lettres dans notre cerveau? Et comment lit-on on ne garde pas l'œil fixe sur chaque lettre après. Vous dites que l'œil danse sur la feuille, à droite, à gauche, il revient, etc. De façon, pourquoi cette danse? Et pourquoi pas simplement atterrir sur une lettre, puis sur l'autre, etc., pour nous donner le temps d'induire un sens à ces caractères graphiques?
Alors, c'est intéressant parce que, d'abord, je vais vous dire, ça fait plus de 100 ans qu'on a remarqué ça. Des scientifiques ont, pour simplifier, ont mis une caméra sur la tête de quelqu'un qui lit pour voir le mouvement des yeux, pour voir comment la lecture se passe. Et alors maintenant, ça fait 100 ans qu'on sait ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que quand on lit un texte, nos yeux fonctionnent en saccade. C'est-à-dire qu'ils restent fixes sur 5, 6 ou 7 lettres pendant, je crois que c'est typiquement un dixième de seconde. Puis ils sautent à un autre paquet de lettres. Puis ils sautent à un autre paquet de lettres. Etc. Ça marche de manière saccadée. Et ce qui est intéressant, c'est que, en plus de ça, souvent, même les bons lecteurs reviennent fréquemment en arrière et relisent des choses qu'ils ont déjà lues. Mmh. Et les blocs qu'on lit ne sont pas des mots. C'est pas forcément un mot. Ça peut être un ensemble de lettres. Et notre compréhension du texte se fait comme ça de manière un peu globale, par petits bouts, qui se collent l'un après l'autre. Un bon lecteur fera moins de saccades, un mauvais lecteur passera plus de temps à faire des saccades. Tout ça est, je crois, assez intéressant et bien documenté. Mmh. Alors, une autre chose que je trouve intéressante sur cette question neuroscientifique, on peut dire, c'est que quand on apprend à lire, quand on a 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est pas facile. Hein, on a tous des souvenirs. On a des souvenirs à l'école. Il y a le maître qui nous reprend. On se fait dépater. On n'écrit pas bien. On se fait attraper. On recommence. On a un peu une sorte de pas de souffrance, mais de c'est un peu un exercice difficile d'apprendre à lire. Et ce qui est assez stupéfiant, hein, c'est que une fois qu'on sait lire, comme vous et moi, on peut plus s'empêcher de lire. Si je suis devant une affiche, je ne peux pas ne pas la lire. Alors, les neuroscientifiques ont compris ce phénomène. Donc, ils expliquent que lors de l'apprentissage de l'écriture, tout ça se passe dans la partie frontale du cerveau. Et puis, une fois qu'elles ont été assimilées, en fait, elles migrent. Mais elles migrent physiquement. Hein. Elles migrent physiquement dans notre cerveau. Et elles se retrouvent dans un endroit que les neuroscientifiques appellent avec humour la boîte à lettres. Mm-hmm. C'est un tout petit endroit qui fait, d'après ce que j'ai compris, ça c'est en gros 1 cm³. Et dans ce 1 cm³ qui est sur la partie gauche de votre cerveau en bas, mm-hmm. et dedans, il y a, sont stockées les lettres, mais les lettres comme objets géométriques. C'est-à-dire, sont stockées les choses dont je parle dans ce livre, la forme mm-hmm. des lettres, mm-hmm. qui sont devenues dans un lieu qu'on peut considérer comme subconscient. De la même manière que quand je marche, je ne pense pas à chaque moment à mes pieds. Quand je lis, je ne pense pas à chaque moment, à chaque lettre. La lecture est devenue un exercice subconscient, alors qu'au moment de l'apprentissage, c'était non seulement conscient, mais parfois un peu difficile.
Alors comment est-ce que ces éléments immatériels, puisque c'est des abstractions, c'est un apprentissage qu'on a eu. Comment ça peut migrer par les connexions synaptiques? Comment ça se passe?
Alors, ne me posez pas trop de questions, parce que je ne suis pas neuroscientifique, pardon. Mais je peux quand même vous répondre. C'est pas immatériel, puisque c'est quand même, au bout du compte, hein, oui. Nos neurones sont quand même très matériels.
C'est vrai.
Et dans nos neurones, il y a quand même des influx nerveux, des influx qui circulent. Donc, non, c'est au contraire concret. Et moi, je trouve ça assez merveilleux de savoir que dans ma tête, il y a un endroit où l'alphabet est écrit. Mmh. C'est beau, non?
Ah, c'est exaltant, mais moi j'avais déjà migré vers une autre question. L'alphabet n'est pas neutre, il structure la pensée. On dit bien qu'on réfléchit, on pense grâce aux mots, et les mots, automatiquement, quand on a un peu de culture, quand on a passé le barrage d'apprendre à lire et à écrire, automatiquement, la pensée, c'est des mots avec l'orthographe, etc. L'alphabet n'est pas neutre.
Bien sûr. Je vais raconter une petite histoire. Là, j'ai été, en septembre dernier, dans les premiers jours de septembre, j'étais dans une école primaire, j'étais dans une classe de CP. Alors, en CP, les enfants ne savent pas lire encore, ils arrivent tout juste, hein, mais ils connaissent l'alphabet, parce qu'ils l'ont appris en grande section. Mm-hmm. Ils reconnaissent les lettres. Alors, j'étais dans cette classe, et j'ai projeté sur l'écran dans leur classe, j'ai projeté un de ces alphabets que je trouve très mignon, qui date du 19e siècle, en fait, où chaque lettre de l'alphabet est représentée par un contorsionniste, en dessin, qui prend la forme de la lettre avec son corps.
Ah oui.
Alors, j'ai dit aux enfants, écoutez, vous allez venir un à un, vous allez choisir une lettre, et vous allez prendre la forme de la lettre. Alors, ils me disent, oui, ça, pourquoi c'est des mathématiques? Et j'aurais dit, vous savez, la géométrie, c'est pas seulement les cercles et les carrés, c'est aussi comprendre les formes en général, mm-hmm. et en particulier les formes des lettres de l'alphabet. Et j'ai trouvé ce moment assez magique, parce que les enfants, ils ont beaucoup amusé, ça les a fait rire, etc. Il y avait des lettres plus difficiles que d'autres. Faire un I, c'est facile, mais faire un H, je vous souhaite bonne chance. Et c'était très drôle, puisque ça m'a donné aussi l'occasion pour moi d'apprendre quelque chose. C'est que les enfants, à cet âge, Bien sûr, ils reconnaissent une lettre lorsqu'elle est projetée sur un écran. Et quand on leur demande de prendre la forme de la lettre avec leur corps, on se rend compte qu'ils n'ont pas encore complètement la maîtrise de leur corps. Et par exemple, pour faire un T majuscule, pour vous et moi, c'est facile, on se met debout, on écarte les bras à l'horizontale. Et bien la plupart des enfants avaient du mal à mettre les bras horizontaux, ils les mettaient verticaux. Et la maîtresse m'a expliqué, donc moi je ne sais pas mon métier, hein, la maîtresse m'a expliqué que le temps qu'un enfant prenne conscience de l'espace qui l'entoure, avec ses bras, avec ses pieds, avec ses jambes, là ça fait partie aussi de l'éducation. Mmh. J'ai trouvé ce moment assez fascinant.
Oui, oui. Lorsqu'il commence à prendre la maîtrise de l'espace avec ce qu'il a comme son corps, c'est le premier outil, le premier compas, le premier. C'est le corps. Et mais je voulais savoir, par rapport à Gutenberg, qu'a-t-il inventé au juste ça, il y a, avant Alors, lui, il y avait quand même des choses pour imprimer.
Bon, avant lui, il y avait des formes en bois ou des cuils de lettres, une géogravure, comme on dit. Mais ce qui est absolument génial chez vous dites Gutenberg ou Gutenberg ?
Moi, je dis Gutenberg. Pensais même, vous savez, à écrire avec E-M. Et après, j'ai vu que c'était d'origine allemande et que c'était Gutenberg, c'est vrai.
Ah bon ? Alors, bon, je vais dire Gutenberg pour vous faire plaisir. disons que Gutenberg, il a inventé le caractère qui est mobile en métal et qui peut être réutilisé autant de fois qu'on veut. La chose géniale, c'est qu'une fois qu'on a imprimé une page, en mettant bout à bout ces caractères métalliques, on peut retirer ces caractères et faire une autre page avec un autre texte. Donc ça n'existait pas avant. C'est le caractère métallique mobile. C'est absolument génial comme idée. Donc une fois qu'on a fait une police de caractère en métal, on peut l'utiliser pour écrire aussi bien la Bible que un texte mathématique, par exemple. Ça, c'est sa grande contribution. Mais sa grande contribution, surtout, c'est que il voulait gagner de l'argent, ce monsieur. Hein? Et en particulier, son but était de fabriquer des Bibles qui ressemblent autant que possible à des Bibles manuscrites. Mmh. Comme on peut l'imaginer, une Bible manuscrite, ça devait coûter une fortune à l'époque. Parce qu'il fallait un copiste qui passait un temps absolument dingue pour recopier le texte de la Bible. Alors qu'une fois qu'on l'avait imprimé sur une presse, on pouvait en faire beaucoup d'exemplaires à très peu de frais. Et donc ce que voulait faire Gutenberg, et c'était un petit malin financièrement, sauf qu'il a fini par perdre tout son argent quand même, mm-hmm. c'était d'essayer de faire des Bibles qu'on puisse acheter pas cher, et qui soit presque aussi belle que les manuscrits. Donc lui, c'était un commerçant. C'était un petit malin qui a eu une très bonne idée. Et vous parlez tout à l'heure de Schaeffer. Lui, c'était plus l'intellectuel du groupe. C'est-à-dire, c'est lui qui, justement, a conseillé Gutenberg sur la manière de choisir les belles formes pour les lettres. C'est dans une police qu'on appelle la textura. Mmh. Donc c'était lui qui était l'intellectuel. Et puis il y avait un troisième, dont j'ai oublié le nom à l'instant, qui était le vendeur, celui qui faisait le démarcheur, celui qui allait vendre les Bibles un peu partout. Mmh. Donc voilà, c'est une association de trois personnes qui sont assez extraordinaires.
Mmh. Alors, les polices, comment ont-elles été établies ? Donc, vous avez dit au départ que pour Gutenberg, il s'agissait de faire des livres pareils, miscibles avec les manuscrits, écrits comme les manuscrits. Qui est-ce qui a aidé Gutenberg à s'émanciper de cette graphie traditionnelle héritée ?
C'est Pacioli, Dürer, etc. Voilà. Ce sont des gens qui ont eu le... C'était l'époque de l'humanisme, c'est le moment où on essaie de revenir sur la gloire de l'Antiquité. Donc l'un des modèles préférés de ces humanistes, c'est la colonne Trajan qu'on trouve à Rome, où il y a des inscriptions absolument magnifiques qui sont gravées dans la pierre. Et ils se sont inspirés de ces lettres pour en faire des objets géométriques dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Luca Pacioli, par exemple, s'est fait Quand je dis que c'est Pacioli qui a fait l'alphabet, c'est pas vraiment vrai. Il a écrit un livre qui s'appelle la divine proportion, et à la fin du livre, il y a un alphabet qui est dessiné en grand, avec des instructions pour le dessiner, et cet alphabet dessiné, non pas par Pacioli, mais par Léonard de Vinci. Donc on se rend compte qu'il y avait une connivence, une amitié entre Pacioli, le mathématicien, le traducteur d'Euclide, et Léonard de Vinci, qui lui n'était pas spécialement mathématicien au départ, hein, on dit qu'il ne lisait pas bien le latin au début. Donc c'est une belle association entre un intellectuel et un artiste.
On peut dire aussi que l'invention de l'imprimerie va bouleverser l'Europe, les idées circulent, la réforme, ça aide la réforme, les sciences, la pensée critique, tout cela en est transformé, c'est une révolution majeure pour l'esprit humain.
Pour tout, c'est absolument incroyable. Nous en sommes la preuve tous les deux, hein. Sans livres, nous ne serions pas ce que nous sommes, hein. C'est absolument incroyable, c'est l'une des plus grandes inventions de tous les temps, me semble-t-il.
Oui, le casting des biographies, vous avez fait des biographies absolument passionnantes, notamment celui que vous avez cité et qui est à l'origine de l'écriture numérique.
Donald Knuth. Alors oui, Donald Knuth est un mathématicien, encore une fois. C'est assez drôle, il y a une petite anecdote que je raconte, c'est que, je vous ai dit, il avait écrit un livre absolument important en informatique, et lorsqu'il a reçu les épreuves qui étaient imprimées avec des caractères très moches, des premiers caractères d'imprimante, imprimante à l'aiguille, comme on avait dans le temps, il s'est mis en colère et il s'est dit « il faut absolument que j'utilise l'informatique pour enfin redessiner des lettres qui soient au moins aussi belles que celles de la Renaissance ». Donc il a commencé à dessiner des lettres et puis il est arrivé que, il explique, c'est un peu drôle, mais il explique que il arrivait à peu près à faire toutes les lettres, sauf la lettre S, qui est la plus difficile de toutes, disent-ils. C'est vrai, quand on regarde le S de près, et j'encourage mes lecteurs dans mon livre, je les encourage à regarder bien comment c'est fait un S, comment sont faits les S, suivant les polices de caractère, qui sont tous différents les uns des autres. On se comprend que c'est pas facile du tout, et donc Knuth n'y arrivait pas, et pour plaisanter, il dit, à un moment, j'ai envisagé de réécrire entièrement mon livre, sans jamais utiliser la lettre S. Mmh. C'était pas facile, vous savez, c'est un peu comme Queneau qui a écrit son livre sans E. Et puis, finalement, il a réussi à dessiner un joli S que j'ai reproduit dans mon livre. Donc voilà, c'est vraiment presque une œuvre d'art. Mmh. Moi, je voudrais dire ça, c'est ça que je veux dire à mon lecteur, en quelques mots, c'est regardez les lettres et vous verrez que ce sont des œuvres d'art.
C'est tout à fait, c'est exaltant. D'ailleurs, il y a des artistes qui utilisent les lettres en petit, en plus grand, etc., pour donner la forme, par exemple, d'une cathédrale. J'ai déjà vu ça sur le net. Mais en tout cas, ce qui est vraiment exaltant, c'est que l'écriture est venue pour pallier aux limites de mémorisation des hommes. L'écriture, voilà, c'est une méthode d'enregistrement et ça joue un rôle dans la conservation de l'histoire, la diffusion de la connaissance et puis finalement, c'est ce qui a peut-être fait que la préhistoire précède l'histoire. L'histoire est venue lorsqu'il y a eu l'écriture.
Ben, vous avez raison, moi je crois que je termine mon livre en disant les lettres sont les gardiennes de l'histoire.
Voilà, mais écoutez,
voilà. Ça me rappelle d'ailleurs une histoire qu'on trouve chez Platon, je crois que c'est dans le Timée, où Platon raconte l'histoire suivante, c'est un dieu, le dieu Thoth, qui va voir le roi d'Égypte et qui veut lui transmettre une invention qui va lui permettre d'augmenter la mémoire des hommes de manière considérable et de les rendre plus intelligents. Alors le roi dit quelle est cette invention, et Thoth lui dit c'est l'écriture. Alors le roi d'Égypte répond à Thoth, tu es bien gentil, mais tu vas te tromper, puisque ça n'est pas en ayant lu que les gens vont avoir une meilleure mémoire, et ça n'est pas en ayant lu qu'ils seront plus intelligents, et ils croiront qu'ils seront plus intelligents, mais ils ne le seront pas. Alors voilà, c'est une espèce d'attaque, bien entendu, Platon ne critique pas l'écriture, mais il est évident que l'écriture a changé profondément la perception de l'homme, que l'homme peut avoir de notre espace géographique et historique.
Alors, monsieur, doit-on vous appeler monsieur le professeur? Mais vous avez tellement de compétences et aussi une sensibilité artistique, puisque vous nous le montrez dans ces livres que nous avons présenté la petite histoire des nombres, ma petite histoire des nombres. Il y a la petite histoire du ballon de foot, il y a la petite histoire des flocons de neige. Vous qui avez écrit des livres très très important, éminemment important en maths, et votre passion, c'est le domaine de prédilection, c'est la géométrie. Alors, dire que vous êtes secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, directeur de recherche émérite au CNRS ENS de Lyon. Vous avez reçu en 2022 la médaille de la médiation scientifique du CNRS et vous êtes un grand écrivain, puisque ces choses-là qui sont peut-être difficiles à appréhender pour le néophyte, eh bien, c'est un plaisir et vertueux, puisqu'on apprend et on est content après. On apprend beaucoup de choses et ce livre est passionnant, ce livre que nous avons présenté, La petite histoire des lettres, et qui paraît chez Odile Jacob, est illustré avec des dessins, des formules, des gravures. C'est un livre très au fil des pages et pas simplement une illustration à droite et à gauche, mais chaque page a de quoi rêver entre les lettres. Merci infiniment.
Vous êtes très gentil, je vous remercie beaucoup.
Merci.
Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C. Solange.